Bonjour à tous. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons commencer notre moment de louange et d'adoration. Merci Dieu notre Père pour cette invitation que tu nous fais. Merci pour ce rendez-vous que là où tu nous invites pour pouvoir venir te louer, t'adorer. Merci pour cette grâce, ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir dans un lieu sans être persécutés, où nous pouvons vraiment te louer, t'écouter, nous parler. Nous voulons vraiment t'offrir toutes les louanges de nos cœurs, que vraiment tu puisses prendre plaisir à tout ce que nous voulons t'offrir. Toute cette louange, toute cette adoration, nous voulons aussi plus tard t'écouter, nous parler à travers la bouche de ton serviteur. Merci de nous bénir. Que tu bénisses tous ces instants que nous avons, au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, nous avons été bénis, parce que c'était un jour de joie. Tout comme aujourd'hui, c'était un jour de joie parce que en fait nous avons eu deux baptisés qui ont accepté le Seigneur, et à travers leur louange, à travers leur adoration, leur témoignage, ils ont pu témoigner que nous avons un Dieu qui est si grand, non pas à eux mais à Dieu toute la gloire. Ce Dieu, il est si grand, c'est ce qu'ils ont voulu exprimer, c'est ce que nous aussi, à travers tous ces chants que nous voulons adresser à Dieu, exprimer. Nous avons un Dieu qui est vraiment si grand, qui est si puissant. Et tout comme pour encourager les baptisés, nous allons reprendre plus tard les chants qu'ils ont choisis lors de leur témoignage, juste pour les encourager comme un signe. Nous allons chanter « Mon Dieu est si grand ». Avant de passer au moment de la scène, nous allons chanter un chant. Ce chant nous dit « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Il est vrai que, avant de nous approcher de la scène, nous devons nous examiner tout un chacun. C'est déjà le texte qui nous le dit. On peut très bien penser que nous sommes bien, que nous sommes justes. Mais Dieu nous demande de nous analyser, de nous sonder. Nous voulons vraiment demander à Dieu de nous sonder, de regarder si nous sommes sur une voie qui est droite, si nous sommes vraiment sur une bonne voie. Sonde de moi, ô Dieu.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vais laisser la place pour le service de la scène.
Voilà, je vais inviter le frère Adrien, le frère Émile, Eric et José. José, tu veux te joindre à nous, s'il te plaît. Pendant que nous nous préparons à partager ce repas, rappelez cinq points. Cinq points qui font aussi le lien avec la cérémonie de baptême que nous avons vécue le dimanche dernier. Et ces points viennent de l'Évangile, du Nouveau Testament, du livre d'Éphésiens. En lisant ce livre, on peut se schématiser cinq grands événements dans la vie d'un homme qui rencontre Dieu. Avant de connaître Jésus-Christ, tout notre être était plongé, touché par le péché. Romains 3, 23 le dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est justement cela qui nous fait bouger. Bien plus, c'est cela qui fait que Dieu vient à notre rencontre. Et lorsque Dieu nous rencontre, comme l'ont témoigné dimanche dernier Dylan et Gemma, ça s'appelle la conversion. C'est un engagement. Pas un engagement à être meilleur sur le plan de vue moral, non. C'est un engagement que Dieu prend de nous transformer de l'intérieur. C'est Dieu qui nous pousse à nous engager pour être changé de l'intérieur. Et lorsque nous faisons confiance à Christ, lorsque nous confions notre vie à Christ, c'est pas quelques situations qui changent dans nos vies, c'est toute notre vie qui change. C'est notre être entier qui est transformé, touché par l'action de l'Esprit de Dieu. Et en ce moment, lorsque nous arrivons à cette étape, Dieu nous éclaire par sa lumière et nous invite à suivre son chemin. Son chemin de vie, son chemin de lumière qu'on appelle la vie nouvelle avec Dieu. Et cette vie nouvelle a des implications. Elle nous invite désormais à marcher avec les valeurs que Dieu nous dit dans sa parole qui est la Bible. Nous marchons dans cette vérité, dans cette fidélité. En tout cas, nous essayons avec l'aide du Saint-Esprit. Et justement, la scène est là assez régulièrement pour nous rappeler qui est ce Dieu, comment son amour s'est manifesté. La Bible dit que c'est lui qui a donné sa vie. Car s'il n'avait pas donné sa vie, nous n'aurions pas eu ce privilège, cette grâce d'être transformés et d'être un jour avec Dieu. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est pour cela qu'il a laissé aux apôtres cette parole dans 1 Corinthiens 11 où il a dit, à chaque fois que vous vous réunissez, en tout cas aussi régulièrement que vous pouvez le faire, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous quand vous partagez ce pain que c'est ma vie, c'est mon corps qui a été donné à cette croix. Quand vous partagez cette coupe, rappelez-vous que c'est mon sang, le symbole de la vie que j'ai donné pour sceller une alliance nouvelle, pour renouveler la vie des hommes avec Dieu. Alors nous sommes invités à nous approchant de cette table à le faire avec respect, pas avec un rituel traditionnel, mais avec un petit examen de notre cœur, pas forcément pour nous culpabiliser, mais pour voir la bonté de Dieu, pour voir la grâce de Dieu et de dire waouh, merci Seigneur, c'est ce que tu as fait pour moi, grâce à toi et sans toi je ne pouvais pas espérer d'avoir une nouvelle vie comme celle que j'ai aujourd'hui. Et je veux me donner à toi tout entier. Pardonne-moi là où j'ai failli et relève-moi et donne-moi la force d'avancer avec toi. Voilà le but. C'est pour cela que nous, en tant qu'évangéliques, nous convenons que ceux qui participent à la Sainte Cène, c'est ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont confessé publiquement leur foi et qui continuent d'avancer avec la grâce de Dieu. Nous allons rendre grâce pour les éléments et tous ceux qui sont baptisés et qui aspirent à partager ce repas dans l'aspect de cette victoire avec Jésus, ne vous en privez pas, mais faites-le avec respect. Faites-le en pensant tout l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous. Si le frère José veut bien prier avec nous. Amen. Je veux inviter Dylan et Jima à venir communier avec nous pour la première fois après le baptême. Si Dylan et Jima veulent s'approcher. Et tous ceux donc qui sont baptisés et qui sont prêts ce matin à communier avec nous autour de ce repas, le service passera. Prenez-le avec action de grâce, avec reconnaissance.
À travers le sacrifice de la croix de Jésus-Christ pour chacun de nous, nous pouvons constater la majesté de Dieu. Nous voyons comment est-ce que Dieu, Jésus, nous a tant aimés. Il est allé sur la croix pour nous. Et vraiment, nous sommes confondus par son amour. C'est ce que aussi les baptisés, la semaine dernière, ils ont témoigné. Nous sommes vraiment confondus par l'amour de Dieu. Nous voulons vraiment proclamer la majesté de Dieu à travers ce chant. Majesté.
Fondue.
gloire, toute la majesté. J'espère que vous n'êtes pas fatigué d'être debout. Gloire à Dieu. L'homme a souvent tendance à se plaindre. Donc si nous sommes debout, c'est parce que les jambes vont bien. C'est que tout va bien. Par exemple, ce matin, on peut se plaindre qu'il y a de la pluie. Mais nous avons besoin de la pluie. Les agriculteurs en ont besoin, les nappes phréatiques en ont besoin. L'homme, il a souvent tendance à se plaindre de ce qu'il n'a pas, plutôt que de remercier Dieu pour ce qu'il a. Donc si ce matin vous êtes venu et que la pluie vous a mouillé, c'est que techniquement vous êtes capable de vous déplacer, vous n'êtes pas alité, ni à la maison, ni sur un lit d'hôpital. Si vous êtes ici, c'est parce que nous avons le privilège de louer Dieu. Nous avons une église, nous devons grande gloire à Dieu. Proclamons la majesté de Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Dieu fait de grandes choses pour nous. Et vraiment, nous voulons, à travers ce chant, le remercier. Le louer. Dire à Dieu, Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Nous sommes venus ici, nous pouvons le louer. Je jouis de la vie. Tout ce que tu fais pour nous, nous jouissons de la vie. Gloire à Dieu. Seigneur, par tes bontés. Plusieurs personnes de vivantes. Je vous invite à vous asseoir et louons notre Dieu. Seigneur, par tes bontés, louons notre Dieu par nos louanges, par nos prières. Amen. Amen. À travers toutes vos louanges, toutes vos adorations, vous avez pu exprimer comment est-ce que Dieu était infiniment bon. Et c'est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Quand il dit que le juste tombe, il le relève, effectivement il le relève. Quand il dit que quelqu'un est abattu, il le console. En faisant allusion au témoignage de Dylan dimanche dernier, effectivement, pareillement j'ai perdu ma mère et j'étais très proche d'elle. Et je l'appelais quasiment, enfin tous les dimanches j'appelais le culte, et dans la semaine, pareil, je l'appelais aussi. On peut se dire que c'est un vide, mais c'est Dieu qui a consolé. Franchement, si je m'étais arrêté sur moi-même, j'aurais été abattu. Mais c'est Dieu qui relève, c'est Dieu qui console. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est infiniment bon. Quand il dit quelque chose, il le fait. Chantons le chant. Infiniment bon, abondamment. Dieu, il est capable. comme j'ai pu le dire en début de présidence, le fil conducteur que nous avons, c'est toujours basé sur le baptême de la semaine dernière. Donc, nous avons chanté le chant que Dylan avait choisi. Donc là, maintenant, nous allons chanter le chant que Gemma avait choisi, juste avant de commencer d'écouter la prédication. Tu frayes un chemin. Je vous invite à vous asseoir. Je vais laisser la place à notre pasteur pour le message.
Amen. Merci Seigneur. C'est lui le Père éternel. Avant de rentrer dans notre message de ce matin, je voulais peut-être présenter je ne sais pas s'il est arrivé. Depuis vendredi, nous avons reçu une délégation de pasteurs ivoiriens. Vous savez que notre église est engagée avec la mission biblique. Nous soutenons cette mission française et qui aide la mission en Haïti et en Côte d'Ivoire. Et depuis le 2 octobre, il y a une délégation justement des pasteurs ivoiriens qui sont là. Et notre église a cette charge, mais ce privilège aussi de les accueillir depuis vendredi soir. Le conseil les a accueillis ici, ils sont là. Il y en a deux qui sont allés à l'église du Tabernacle à Paris, parce que c'est de là qu'est parti le premier missionnaire pour la Côte d'Ivoire en 1927, pour évangéliser la Côte d'Ivoire. Et puis il y a un qui est avec nous ce matin, Arnaud Sleval, si tu veux juste te tenir debout, voilà, qui est là avec nous. C'est une église ivoirienne qui a plus de 1000 lieux de culte, qui a 38 902 chrétiens baptisés, ce n'est pas ceux qui assistent au culte, c'est les chrétiens baptisés, qui a 133 pasteurs, qui a 41 missionnaires sur le territoire ivoirien et qui évangélise dans les régions qui sont les plus reculées, les régions rurales. Et la mission biblique depuis 1927 soutient ce ministère en Côte d'Ivoire. En envoyant pendant plusieurs années des missionnaires, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'il n'y a plus de missionnaires français, parce que justement la mission a formé des pasteurs locaux qui eux-mêmes maintenant annoncent l'évangile sur ce territoire. C'est une mission aussi qui est engagée dans l'œuvre sociale, comme on dit, la mission intégrale, et la mission biblique soutient plusieurs de ces œuvres, notamment une pouponnière qui accueille des enfants pour les accompagner de tout petits, pour les accompagner, et même qui accompagne aussi des jeunes mamans. Ils font du développement rural, ils font pas mal de choses avec les moyens locaux, et la mission biblique est à côté. Et nous avons, il y a 2 ans, accueilli aussi ici le doyen de la faculté baptiste de Haïti et qui a prêché ici, parce que nous sommes engagés aussi avec ces missions-là. Cet après-midi, le conseil leur a prêté cette salle parce qu'ils vont accueillir ici plusieurs frères ivoiriens qui sont ici pour leur exposer la mission, pour qu'ensemble ils puissent continuer de soutenir l'évangélisation dans ce pays. Il m'a semblé intéressant aussi qu'on donne quelques nouvelles à l'église, puisque plusieurs sont informés que nous soutenons depuis 2 ans cette mission. Nous avons, avec Gertrude et Tina, mis en place un petit groupe d'intercession pour la prière. Nous recevons régulièrement des sujets de prière et nous faisons ça depuis peut-être, ça fait 6 mois maintenant, Gertrude, c'est ça, hein. On se retrouve un jeudi dans le mois chez Tina et on prie pour ces missionnaires sur le terrain, pour que Dieu puisse travailler, puisse continuer d'annoncer l'évangile. On veut aussi bénir l'église parce que l'église soutient cette mission financièrement. Cette année, vous avez voté un budget et nous l'avons fait partie à la mission biblique. Que Dieu bénisse donc l'église qui s'est engagée aussi financièrement auprès de cette mission. Et justement, le thème d'aujourd'hui touche aussi à la question du service de Dieu. Dimanche dernier, comme l'a dit Eric, nous avons eu le privilège d'accompagner 2 personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur et qui l'ont témoigné publiquement. Et nous voulons enseigner ces 2 personnes sur la question du service, mais nous rappeler pour nous qui sommes anciens chrétiens, pourquoi finalement, quand Dieu nous sauve, pourquoi nous restons sur la terre? Il aurait bien pu, dès qu'il nous sauve, nous rappeler auprès de lui, puisque de toutes les façons, il est plus agréable de vivre auprès de Dieu que de rester encore sur cette terre où nous avons des difficultés, des souffrances et des maladies. Parce que, comme l'a dit Jésus, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas rentrées dans cette bergerie. J'ai encore d'autres personnes, des hommes et des femmes à sauver. Mais en temps, Jésus est monté au ciel. Qui va le faire? Dans Jean, le chapitre 17, il a confié cette mission à l'Église au travers des disciples. Les 12. Quand il priait pour les 12, dans Jean 17, il a confié cette mission. Et on a vu le texte phare, c'est Matthieu 28, où il a dit clairement que cette mission est désormais entre les mains de l'Église qui était représentée par les apôtres. Servir Dieu, qu'est-ce que ce qu'il avait dit? Servir Dieu. J'aime ce texte de David. Je n'ai pas de diapo aujourd'hui, à dessein. Vous savez que David, lors d'un épisode difficile du peuple d'Israël, alors que le peuple était sous le poids d'une malédiction, Gad, qui était un prophète, a dit à David, il faut que tu ailles dans tel endroit pour faire un sacrifice pour le peuple. Et quand David s'est rendu dans cet endroit, le serviteur qui était là, enfin le paysan qui était là, a vu que c'était David le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché et il a dit, mon serviteur, mon roi, je suis à ta disposition. On est dans 2 Samuel chapitre 24. Il dit, je suis à ta disposition, prends tout ce que tu veux. Je te le donne gratuitement pour que tu offres le sacrifice à ton Dieu. David avait une bonne position, n'est-ce pas? Sa position de roi aurait pu lui faire prendre ce cadeau, puisqu'il lui a dit, tu es notre roi et je te le donne. Mais David a eu cette expression qui reste une expression forte dans la pensée biblique. 2 Rois 24, verset 24, il dit, mais le roi dit à Aravana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Mais le roi dit, non, je l'achèterai contre sa pleine valeur en argent. Je n'offrirai pas au Seigneur un holocauste qui ne coûte rien en lui apportant ce qui t'appartient. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des services qui ne me coûtent rien. Ça nous rappelle quelqu'un. Ça nous rappelle Jésus. Jésus a dit, on ne me prend pas la vie, je la donne. Mais je la donne pour ceux que j'aime. Et la Bible dit que notre salut a coûté cher. A coûté la vie du Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez un cadeau de prix qui ne coûte pas cher? Vous en connaissez? Même quand on dit un cadeau n'a pas de prix, ça coûte déjà l'intention de l'offrir. Ça coûte la bonne disposition de faire du bien à quelqu'un. Ça coûte toujours quelque chose d'offrir quelque chose à quelqu'un. Et David a dit, je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Parce que ce que ce Dieu fait pour mon peuple, ce que ce Dieu fait pour moi, le prix est inestimable. Inestimable. Quand Dylan a rendu son témoignage, quand Gemma a rendu son témoignage, tout le long de leur vie, que ce soit le jeune Dylan ou l'adulte Gemma, ils ont vu la présence de Dieu d'une façon ou d'une autre, même s'ils n'arrivaient pas à discerner ce que c'était concrètement, jusqu'au jour où il y a eu cette relation avec Dieu. Et là, ça fait tilt. Ah, c'était Dieu qui était dans ma vie, mais je ne le savais pas alors. Et le jour où il s'est révélé à chacun de nous, nos yeux s'ouvrent. Si on regarde ce que nous étions avant notre conversion, on peut dire, waouh, toutes les fois où j'ai échappé à quelque chose de difficile, il était là donc. Mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, je sais que c'était lui. Il est toujours à l'œuvre dans la vie des êtres humains. Sauf qu'à un moment, il faut réaliser que c'est lui. Et cela nous donne de contempler le prix du service de Dieu. Parfois, quand on dit servir Dieu, on croit que ça veut dire devenir pasteur, devenir missionnaire. Regardons ensemble ce que l'Ancien Testament appelle servir Dieu. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire le psaume 100. Le psaume 100. Dans ma version, il est intitulé « Psaume pour remercier Dieu ». Psaume pour remercier Dieu. Verset 1. Psaume pour remercier Dieu. Acclamez l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. servez l'Éternel avec joie. J'ai une version qui est la version Semeur. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis avec, en chantant pardon, ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étend d'âge en âge. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Dans l'Ancien Testament, quand on prend les mots que Dieu donne aux auteurs bibliques de mettre dans ces textes tout le long de l'Ancien Testament, le service ici n'est pas d'abord un travail à faire pour Dieu. C'est l'adoration que nous rendons à Dieu. Servir Dieu donc, c'est l'adorer. C'est se donner totalement à lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul va reprendre dans Romains chapitre 12. Il dit, rendez à Dieu un culte raisonnable. En vous offrant vous-même. Vous êtes ce culte. Vous êtes ce service. Votre vie, quand elle appartient à Dieu, ben, c'est ça, servir Dieu d'abord. Servir Dieu, c'est l'aimer finalement. Servir Dieu, c'est montrer par notre attitude de changement que nous avons compris l'amour qu'il a pour nous et nous lui répondons par un acte d'amour. Qui de nous peut répondre avec un acte de méchanceté lorsque quelqu'un lui pose un acte d'amour? Tout le monde dirait, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Cette personne ne te fait que du bien. Et toi, en réponse, tu ne fais que du mal. Parfois, c'est ce que nos vies sont lorsque nous ne connaissons pas Dieu. Avec des expressions toutes faites. Oh, tu sais, Dieu, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des expressions toutes forgées dans notre monde. Ah, j'ai eu de la chance. Ah, il s'est failli du peu, mais j'ai eu la baraka. Ah, mère nature nous a fait grâce. Mère nature. Toutes ces expressions forgées pour refuser que finalement, celui qui est derrière cela, il n'a qu'un seul nom. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Dieu. C'est lui qui prend soin de sa création. Servir Dieu, c'est donc lui rendre un culte, reconnaître qui il est, reconnaître que sa bonté dure à toujours et que, in fine, dans les bons comme dans les mauvais jours, il est là. Et Jésus est la manifestation que malheureusement, même le peuple de l'Ancien Testament a échoué dans son service de Dieu parce que le peuple n'a pas été fidèle dans son adoration à Dieu, parce que le peuple n'a pas été fidèle dans l'obéissance au bon projet de Dieu, parce que le peuple souvent même a adoré d'autres dieux que l'Éternel. Mais Dieu le savait, Dieu l'avait déjà anticipé. Et c'est pour cela que dans Ésaïe, on a des chapitres qui nous disent, voici finalement le vrai serviteur de l'Éternel, à partir d'Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42 dit, voici mon serviteur bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Et ces chapitres décrivent finalement qui? Décrivent Jésus. Et quand Jésus rentre dans son ministère, tout ce qu'il accomplit finalement réalise clairement que c'est lui qui est le serviteur. En Luc chapitre 22 verset 27, il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sait. Je suis venu donner ma vie. Je suis venu servir l'humanité. Ma vie est au service de l'humanité. Dans Philippiens chapitre 3, on voit ce qu'on appelle la kénose. On dit que Jésus a laissé tout ce qu'il avait de glorieux dans le ciel. Pourquoi? Pour venir payer le prix. Parce qu'il nous aime. On dit dans le conseil de Dieu, en tout cas, la parole de Dieu dit, dans le conseil éternel de Dieu, la question s'est posée, et c'est un psaume qui le dit, qui enverrai-je? Qui ira pour sauver ma création? Et Jésus répond, envoie-moi, Seigneur. Et Jésus répond, c'est pour ça qu'il est le serviteur. Il vient pour nous servir. Il dit, dans tout son ministère avec ses apôtres, il dit à chaque fois, ne suis-je pas votre maître? Et pourtant, c'est moi qui vous sers. Et il va établir cette règle, finalement. Il dit que celui qui veut être le plus grand, en fait, c'est pas celui qui doit dominer sur les autres. C'est celui qui doit servir les autres. Il dit, dans le royaume des hommes, celui qui domine, il domine. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui domine, c'est celui qui sert. C'est celui qui sert. Il dit donc, soyez comme moi. Vous m'avez vu faire, suivez-moi, suivez mon modèle. Alors nous qui sommes chrétiens, finalement, il y a cette obéissance à Dieu, cette adoration, ce cœur que nous donnons à Dieu et que nous laissons Dieu porter pour changer nos valeurs, nos habitudes, même parfois nos caractères qu'on dit irréductibles. Moi, j'aimerais vraiment prier qu'aucun chrétien ne puisse dire « Mon caractère, c'est comme ça, ça ne peut pas changer ». C'est dommage, on ne le dit pas pour les bons caractères, on le dit généralement pour les mauvais de nos caractères. Mais si un caractère est mauvais, et que tu le sais parce que l'Esprit de Dieu nous parle, lâche prise, et laisse l'Esprit de Dieu t'aider pour le changer. Ça va te faire du bien à toi, et ça va faire du bien à ceux qui t'aiment. Car la parole de Dieu dit qu'il est venu pour nous changer, pour nous transformer en profondeur. Et ce service, justement, ce service, cette adoration de Dieu, dans l'aspect concret, comment ça se manifeste? Ça se manifeste dans ce que nous pouvons nous engager pour l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, comment se manifeste-t-elle, mes frères? Elle se manifeste par l'amour du prochain. Quand nous aimons notre prochain, ben nous sommes au service de Dieu. Parce que souvenez-vous du commandement. Jésus dit, quel est le premier commandement? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il dit, voici le second, mais qui est similaire au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans l'épître de Jean, il dit, mais si vous dites que vous aimez Dieu, qui est un pur esprit, que seul Jésus nous a montré, mais depuis le temps Jésus est monté au ciel, et que vous n'aimez pas votre frère, il dit, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Parce qu'il dit, souvenez-vous que même les démons craignent Dieu. Ils reconnaissent que Dieu existe. Ils le craignent parce qu'ils savent qu'au terme, Dieu va les condamner. Il dit donc, si vous restez juste sur cet aspect d'aimer Dieu, et il va dire, petits enfants, n'aimez pas Dieu en parole. Mais que votre amour soit concret. Et la concrétude de notre amour pour Dieu passe par l'amour pour le prochain. Donc, servir Dieu, c'est laisser finalement l'amour de Dieu se manifester au point où nous sommes. Prenons soin les uns des autres. Il dit que cela commence dans l'Église. Que nous puissions apprendre dans ce petit échantillon qui est l'Église. Parce que parfois, la prétention, c'est de dire, on va aimer tout le monde. Mais déjà, ton voisin avec qui tu es dans l'Église, ta soeur avec qui tu es dans l'église, ton frère avec qui tu es dans l'église, apprends déjà à l'aimer. Il me semble qu'un enfant de 5 ans, on le mettra pas en terminale. On est bien d'accord? Parce qu'il n'est pas prêt pour apprendre l'instruction en terminale. Et nous, parfois, on est comme ça. On n'est pas prêt, mais on veut faire de grandes choses. Dieu dit, commence là, tout prêt. Commence là, tout prêt. Quand tu réussiras, et tu vas réussir si tu commences tout près, tu verras qu'au fur et à mesure, ton champ va s'agrandir. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples dans le livre des Actes des Apôtres, voici le schéma de la mission. Vous commencerez par Jérusalem. Parce que vous y êtes. Vous habitez à Jérusalem. Commencez le service à Jérusalem. Ensuite, dans la région qui est plus étendue, qui s'appelle la Judée. Ensuite, un peu plus loin, en Samarie, et puis seulement après, jusqu'aux extrémités de la terre. servir Dieu commence dans l'église, commence dans nos familles. Chers frères, chers sœurs, commençons notre service dans nos familles, par amour et dans l'amour de notre prochain. On dit notre premier prochain, c'est ceux qui sont au quotidien avec nous. C'est ceux qui sont au quotidien avec nous. Comment je peux dire, moi, à ma femme et à mes enfants, je suis serviteur de Dieu s'ils ne me voient pas aller servir à la maison, s'ils ne me voient pas m'engager pour aller à la maison, s'ils ne me voient pas manifester l'amour de Dieu pour aller à la maison? Comment je peux dire ça? Je serais un gros schizophrène. À la maison, je suis waouh, et à l'église, je suis le pasteur. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais on est tous un peu comme ça. Il y a des endroits où on n'est pas chrétien, et il y a d'autres endroits où on est chrétien. C'est dommage. Parce qu'on est chrétien. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et parce que nous sommes chrétiens, alors notre service, c'est partout. D'abord dans des endroits qui sont très proches. Jésus l'a vécu. Le ministère de Jésus, c'était ça. Au contact, on dit, village après village, même dans la foule, il s'intéressait aux individualités dans la foule. Et l'histoire, l'une des histoires qui me marque, c'est celle de Bartimée. Il est en pleine foule, en train de marcher avec ses disciples. Ça le loue de tous les côtés. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, fils de David, aie pitié de moi. J'ai dit, mais comment il a fait pour entendre ce cri? Pendant que tous les autres le maîtrisent. Écoute, calme-toi. Il n'a pas le temps pour toi, le monsieur. Tu as recommencé à combattre, mais calme-toi. Et lui, il insiste. Fils de David. Et Jésus dit, quelqu'un m'appelle. Il s'arrête. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Bartimée, il a sa demande exacte. Il formule cette demande et Jésus dit, selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Servir Dieu, ce n'est pas faire de grandes choses. C'est faire ce que Dieu veut qu'on fasse avec les forces qui sont les nôtres, là où on est déjà. Et ensuite, il va nous équiper, il va nous encourager, il va étoffer ce que nous sommes pour que notre service s'étende. Mais commence là où tu es, mon frère. Commence là où tu es, ma soeur. Et là où nous sommes, c'est l'église de Dieu. Nous sommes ici à Créteil. Parfois, nous, chrétiens, on dit l'église universelle. C'est bien, mais tu es là déjà, ici. Tu es dans une église locale. Aide-nous à servir Dieu. Donne-nous la main d'association. Parfois, et c'est triste, les constats dans les églises évangéliques, on dit c'est 20% de ceux qui fréquentent l'église qui travaillent pour les 80%. Et qu'il y a 80% sans culpabiliser personne viennent que pour assister au culte. C'est déjà une bonne chose. Mais imaginez-vous, si nous sommes 100% à être engagés pour Dieu. Wow. Parfois, on a envie des grandes églises. On veut tous y aller. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans ces grandes églises, les gens sont tous engagés. Ça bouge partout. Et nous, on est tout rikiki. Et on repose ça sur un petit noyau. Et puis après, on est troustiné. On dit, waouh, mon église n'est pas vivante. Qu'est-ce que tu fais pour que ton église soit vivante? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu crois que tu ne peux rien faire? C'est faux. Puisque dans la vie de tous les jours, tu fais des choses. N'est-ce pas? Puisqu'à la maison, tu fais des choses. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a envoyé la foi, il a donné au moins un don à chacun de nous. Donc là où tu es, si tu es converti, tu as au moins un don. Au moins un. Et ce don-là, Dieu veut que tu le mettes au service de l'église. Parce que finalement, l'église, c'est qui? C'est pas ces bâtiments-là. De toutes les façons, le bâtiment d'ici, il ne nous appartient pas. Voilà. Mais c'est nous ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire comme action de Dieu dans cette vie. Dit que Dieu continue à aimer les hommes. Mais c'est ensemble que nous voulons le faire. Mais d'association. Il y a ce don qu'on appelle le don de service, que quelques-uns manifeste de façon particulière, mais tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu. Et il y a l'un des dons spirituels qui est lié au don de service, c'est le don de la libéralité. Quand on parle du service de Dieu, on s'arrête parfois qu'à l'aspect de notre engagement physique, présence, action dans un service. Ça fait maintenant longtemps que je me suis dit, j'ai eu toujours la grâce d'être dans des églises où il y a eu toujours quelque chose de fait. Il y a une seule église qu'on a aidé à bâtir, enfin deux, mais les autres églises, on a déjà trouvé des bâtiments, on a trouvé des hommes. Et il y avait toujours une histoire avant nous. Et je me suis toujours dit, s'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes, si je prends Créteil, ça fait plus de 40 ans qu'on est là, s'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes qui s'étaient engagés, et physiquement, et matériellement, et financièrement, nous ne serons pas là aujourd'hui. Et c'est quand même triste parce que finalement, cette église veut bouger d'ici, elle ne peut pas. Ce n'est pas fort d'avoir essayé. C'est parce qu'on n'a pas les moyens financiers conséquents pour acquérir. À l'époque, il y a eu un projet proposé. L'église n'a pas pu mobiliser l'argent qu'il fallait à l'époque. Aujourd'hui, nous ne savons pas au conseil si on a une opportunité. C'est vrai que l'église a épargné. Merci Seigneur, parce qu'il y a encore des gens de cette église, depuis toutes ces années, qui ont mis de l'argent de côté pour prévoir quelque chose. Mais vous savez, je suis là depuis 3 ans. Il n'y a plus beaucoup d'argent qui tombe sur ce compte. Hein. Ce compte est alimenté. Parfois, quand on parle de la question de l'argent, tout de suite, ouais, c'est les églises encore, ouais, c'est la question de l'argent. Honnêtement, là où nous sommes assis, c'est parce que des gens ont payé quelque chose que nous sommes là. L'électricité, elle ne nous est pas offerte gratuitement. Hein. On a une facture. Je peux donner le micro à Emile, il vous dira la facture de l'électricité. On a des charges dans cette église. Nos charges, lorsqu'on l'a calculé, et à tous les âgés, on fait le bilan des charges, on dit voici ce qu'il nous faudrait chaque mois pour que l'église continue de servir Dieu. Il nous faudrait 4000 euros chaque mois. Merci Seigneur, parce que Dieu soit béni, plusieurs d'entre nous mettent la main à la poche pour donner. Gloire à Dieu. Et je suis toujours fasciné quand je vois l'engagement. Quand je vois l'engagement de chrétiens d'un certain âge qui sont à la retraite, mais qui continuent de donner comme quand ils étaient. C'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'ils veulent que l'évangile continue d'être annoncé. Et on a une nouvelle génération, et je ne vais pas être long parce que j'aimerais tellement que vous compreniez mon propos. Ce n'est pas la question de l'argent, c'est la question d'avoir les moyens pour bien faire l'œuvre de Dieu. Et parfois, on en manque quand même. Et parfois, on est obligé d'en parler quand même. Nous avons hérité il y a 3 ans d'un petit fonds qui a permis à notre église de recruter un pasteur. Mais ce fonds, à la fin de cette année, ne sera plus là. Et nous ne savons pas au conseil si nous allons pouvoir être capables de faire face à nos charges à partir de 2020. Donc quelquefois, il y a des sujets graves dont nous devons parler. David a dit, je n'offrirai pas à mon Dieu ce qu'il ne me coûte pas. On nous a enseigné à la faculté théologique et à l'institut de ne pas faire de la manipulation pour la question de l'argent. Mais dans le contexte français, on nous empêche presque en tant que pasteur de parler de l'argent. Parce qu'on nous dit, ouais, tu sais, ouais, ils vont te dire, ouais, ouais, ils vont te dire, ouais. Mais quand les églises ferment, quand les églises ne peuvent pas avoir de pasteur, tout le monde dit, mais où est Dieu? Non, c'est nous que Dieu attend, frères et sœurs. Nous sommes capables de financer des œuvres caritatives et c'est utile de le faire. Et je loue le Seigneur parce que dans la culture française, le français lambda a la culture du don pour les œuvres caritatives. Nous étions dans une église à Mency où l'un des jeunes avait une maladie rare. Et il y a une fondation qui a été créée pour cette maladie-là. Et des gens donnent. Et l'église a été encouragée à donner pour cette œuvre caritative, parce qu'elle est louable. S'il n'y avait pas ces dons, ce jeune n'aurait pas eu des soins qui coûtent très cher, qui sont subventionnés par cette association. Donc dans la culture française, on a la culture du don pour les œuvres caritatives, pour sauver des vies là et maintenant. L'Église est là pour sauver des vies pour l'éternité, bien-aimés, pour l'éternité. Quand nous faisons un baptême comme dimanche dernier, on dit gloire à Dieu, mais ce jeune homme, c'est dans cette église qu'il a fait son parcours. Il a témoigné. Il dit, je suis né ici. Je vous remercie parce que vous étiez là. Imaginez si on n'était pas là. Imaginez s'il n'y avait pas eu l'école du dimanche. Imaginez si on n'avait pas eu les moyens. Parfois, il faut s'imaginer le pire pour voir la grâce de Dieu et de dire, j'aimerais tellement que ça continue. J'aimerais tellement que d'autres jeunes. Là, on est à l'étroit. On est obligé de maximiser nos différentes activités parce que les hommes ont leur réunion, les femmes ont leur... On est à l'étroit. On ne peut faire que ça parce qu'on n'a pas les moyens d'aller ailleurs. Je parle avec mon cœur parce que parfois, il me semble qu'il faut qu'on parle de certaines choses qui sont très difficiles, mais avec le cœur. L'apôtre Paul l'a fait. Dans des lettres où il a écrit, il y a une condition où il regardait les chrétiens de Judée qui étaient des chrétiens persécutés et pauvres. Il dit, c'est pas possible. Nous sommes des frères en Christ. Que ces chrétiens-là n'aient rien, il faut qu'on se mobilise. Il a écrit des lettres à toutes les églises. Il dit, s'il vous plaît, faisons des dons, cotisons et apportons pour que cette église puisse soutenir tous ceux qui n'ont plus rien. Il y a des églises qui n'ont pas de pasteur. Et cette église, depuis des années, malgré le fait qu'elle a un budget resserré, elle donne pour soutenir les pasteurs. J'ai trouvé que c'était incroyable de faire ça. Et cette église donne pour soutenir deux ministères dans notre union d'église. Un ministère pastoral et un ministère de jeunesse, même si on est à l'étroit financièrement. Mais cette église a le cœur de dire, on peut partager le peu qu'on a pour que d'autres puissent avoir un pasteur, pour que d'autres puissent avoir des jeunes et des jeunes encadrés. Et notre église le fait. Est-ce qu'on pourra continuer de le faire? On ne sait pas. Servir Dieu bien-aimé, c'est notre cœur, c'est notre engagement. C'est notre présence dans les activités. On n'est pas là juste pour remplir des activités. On est là pour servir Dieu ensemble. Les femmes étaient là hier. Je ne sais pas si vous étiez juste là pour remplir une activité. Mais je pense que vous avez été édifiés par ce que vous avez fait ensemble. Les jeunes vont sortir le 26 pour aller avec d'autres jeunes à Paris. Parole de vie, pour vivre quelque chose, pour mettre une pierre sur leur foi. L'église doit être derrière. C'est des moyens. Bref, que Dieu nous aide bien aimés. Parfois, la question de l'engagement, on dit, ouais, mais combien il faut donner? Certains disent 10% de mon salaire. Oh là là, 10% de mon salaire, je calcule vite fait. Ça fait beaucoup. L'évangile, le Nouveau Testament, n'est pas sur la ligne des dîmes. Mais c'est un enseignement qui est dans la parole de Dieu. Parfois, quand on prêche dessus, on dit, voilà, ils vont prendre un impôt sur le salaire de leurs pauvres fidèles. On n'a pas de calculette, nous. C'est chacun dans sa conscience qui regarde les besoins pour servir Dieu et qui dit, je veux contribuer. On n'est pas à l'église catholique, même si on a une mauvaise image de l'église catholique. Parce que l'église catholique, on croit que c'est les collectes des dimanches qui nourrit l'église catholique. C'est faux. L'église catholique a de généreux donateurs. Des catholiques pratiquants qui ont des fortunes donnent beaucoup. Et nous, parfois, on est obligé de ramer dans nos églises. Mais on aime Dieu et Dieu nous surprend. Il est le Dieu des miracles, comme le chant qu'on a chanté. C'est lui qui le fait. Et nous, en tant que couple pastoral, on est témoin de ça. Pendant 5 ans, on a implanté une église, on n'avait pas de salaire en tant que tel. Cette église de Créteil nous finançait aussi. Quand on m'a recruté, on a dit, Serge, on n'a pas de salaire pour toi. Je dis, écoute, adviendra que pourra. S'il faut que je trouve du travail, je trouverai, mais je ne pourrai pas être efficace si j'ai un travail à côté. Et puis on s'est engagé. Vous savez, pendant 5 ans, on a vécu dans 45 mètres carrés avec 3 enfants. On était serviteur à plein temps dans une église parce qu'on n'avait pas le salaire qui va avec. Mais on ne s'est jamais plaint parce qu'on savait que Dieu voulait qu'on serve. Aujourd'hui, il y a une église qui est dans cette ville, une église qui tient bon. On dit gloire à Dieu parce que ce sacrifice a été utile pour que Dieu lève une église et que l'évangile continue d'être annoncé. Gloire à Jésus. Et je sais que la plupart des anciens de cette église, plusieurs de familles de cette église ont fait d'énormes sacrifices financiers pour que cette église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Le principe biblique, c'est de ne pas prendre ce qui est utile pour donner à l'église. Non, l'église n'est pas là pour mettre des familles en danger. Non, 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 non. Mais nous avons chacun à prendre une décision pour servir Dieu, pour nous engager. Est-il convenable, bien-aimé, que dimanche après dimanche, je donne 20 centimes, dimanche après dimanche. Est-ce que c'est quoi? On appelle ça la quête. On ne demande pas non plus que tu mettes tout ton salaire. Non, comprenez-moi bien. Comprenons-nous bien. Il s'agit de servir Dieu et chacun doit donner avec la libéralité et la joie dans son cœur. On dit Dieu aime les dons qui se font sans contrainte et avec joie. Et avec joie. Et moi qui vous parle, je suis pareil. Je donne selon ce que j'ai et avec joie. Il y a des fois, je n'ai pas, parce que le budget ne permet pas. J'ai dit, Seigneur, on va voir le mois qui vient. Je n'ai pas. J'ai une famille, j'ai 3 enfants, je ne vais pas les mettre en danger. Mais le Seigneur me dit, quand tu auras Serge, n'oublie pas. Parce que c'est facile de dire, tu n'as pas maintenant. En temps, il y a les charges de l'église qui sont mensuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Si chaque mois on dit, on n'a pas, on attend le mois prochain, l'église, elle a des charges mensuelles. Bref. J'ai été un peu long, mais j'avais besoin de vous parler avec mon cœur. Pas que la situation soit dramatique, mais juste pour nous encourager. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons crier Hosanna. Nous voulons annoncer l'évangile. Nous voulons vivre des temps de baptême comme dimanche dernier encore. Mais nous avons besoin de nous engager tous, à tous les niveaux, pour que Dieu soit glorifié. Psaume 100 pour terminer. Psaume pour remercier Dieu. Acclamez l'Éternel. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec de chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le, car l'Éternel est bon. Car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Car l'Éternel. Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai que j'ai parlé avec mon cœur sur cette prédication, mais je prie que ton Saint-Esprit aide pour que ce que j'ai dit ne soit pas mal pris. J'aimerais tellement que nous soyons encouragés. Il y a des chrétiens qui sont engagés et nous sommes au bénéfice de leur engagement parce que nous sommes là en tant qu'Église, parce qu'il y a des chrétiens qui ont tenu bon, qui se sont engagés dans tous les aspects de leur vie. Merci parce que ceux-là ont fait ce qu'il fallait. Mon encouragement ce matin, c'est que nous puissions faire ce qu'il faut pour que ça continue encore et encore et que ça continue de plus belle dans des conditions encore appréciables. Mais en même temps, je réalise que ces chrétiens qui sont engagés, tu n'as pas fait un deal avec eux, mais au final, tu les as bénis. Ta bonne main était sur eux. Tu n'es pas un Dieu ingrat. Tu es un Dieu qui sait reconnaître quand on s'engage pour lui. Tu prends soin de chacun. Nous voulons faire ton œuvre, mais nous n'avons pas de grands moyens. Alors aide-nous. Parce que c'est toi qui veux toujours sauver des hommes, ramener des gens à toi, donner une nouvelle chance, changer des cœurs et faire que ton royaume soit proclamé dans le monde. Te bénissons. Nous voulons avoir une pensée pour les chrétiens de l'Algérie, Seigneur. Nous voulons avoir une pensée pour les chrétiens qui sont persécutés actuellement. Nous voulons avoir une pensée pour les églises qui sont sans pasteur. Nous voulons avoir une pensée pour les églises comme les nôtres qui n'ont pas de bâtiment à eux. Nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui t'aiment, toutes ces églises rassemblées dans le monde et qui ont besoin d'un plus pour continuer à annoncer cet évangile du salut. En Jésus-Christ, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.
Merci pour le message de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons pouvoir exercer un service à travers la libéralité à travers les offrandes. Donc, je vais appeler Gilbert et Manuela pour le service des offrandes, s'il vous plaît. Et Jésus, de roi qu'il était, il est descendu sur la terre, non pas pour être servi, mais pour nous servir. Donc, nous voulons vraiment encore lui rendre gloire à travers ce chant. Majesté.